Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Marcelin Plenet, qui publie Cézanne marginale aux éditions Les Mauvais Jours. Peintre se consacre entièrement à l'étude de la nature et tâche de produire des tableaux qui soient un enseignement. Né sans naissance, Plenet, Lyon, France, 23 décembre 1933, et depuis toujours en association libre. Voilà ce que vous dites, Marcelin Plenet, dans un de vos derniers livres, Le Savoir Vivre, qui a été publié au printemps dernier chez Gallimard dans la collection L'Infini. Un livre qui est présenté comme un roman, mais qu'on pourrait aussi bien considérer comme un journal, qui serait le journal de la maladie que vous avez surmontée. Et pour vous, ça a été une expérience, parce qu'en 70 ans, vous n'aviez jamais été confronté à la douleur, à la peur. Il y a de quoi écrire.
Ni à la douleur, ni à la peur, ni à la maladie. Ça a donc été un événement, en effet, assez considérable, assez traumatisant. Le caractère de journal et de roman a cet avantage de ne pas donner à la maladie plus de réalité qu'il ne convient. La maladie est un accident. La vie ne se passe pas là, elle se passe ailleurs. Donc, la maladie fait partie d'une longue intrigue et d'un des avatars de cette intrigue. Donc, c'est pour ça que le mot roman. D'ailleurs, je pense, j'ai tendance de plus en plus à croire que tous autant que nous sommes, nous vivons dans un roman. La vraie vie que nous avons est romanesque. L'autre, eh bien, mon Dieu, elle est ce qu'elle est liée aux accidents du jour.
Et ça, c'est votre gai savoir, le savoir vivre.
Oui, d'une certaine façon, on peut le dire comme ça. C'est en tout cas, vous avez cité la date de naissance et j'y reviens toujours parce que c'est évidemment, ça n'est pas n'importe quelle date dans l'histoire de notre civilisation. C'est évidemment l'année où Hitler prend le pouvoir. Je suis né cette année-là. Et ce qui a suivi, eh bien, nous le savons, c'est quand même un certain nombre de catastrophes. Et où, comme disait Brecht, de façon très optimiste, la résistible ascension, est-ce que c'était résistible? Est-ce qu'on pouvait résister à ce que l'histoire était en train de programmer? Je pense que... Nous arrivons au XXe siècle au moment où ce n'est peut-être plus comme cela qu'il faut penser. L'essentiel, c'est peut-être moins de résister que de penser avant la catastrophe, ou en tous les cas, même si l'on est dans la catastrophe, de penser la vertu qui sauve. Mmh. Hein, c'est le joli mot de Hölderlin, là où est le péril, là aussi, croit. Se développe ce qui sauve. Et je crois que c'est cet aspect-là, en vérité, que, en effet, en libre association, j'ai toujours été amené à traiter au cours de ces 70 ans.
Oui. Et l'écriture, c'est ça. C'est ce qui se passe avant la catastrophe. C'est ce qui est résistible.
C'est une découverte, pour moi, peut-être un peu tardive, mais en tous les cas, c'est la conviction... c'est la conviction que quel que soit l'état dans lequel on se trouve, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, aussi bien socialement qu'historiquement ou biographiquement, la chance est toujours là. La chance est toujours là. Je crois que la superficie sociale, ou ce que nous connaissons du social, au fond... c'est comme une sorte de ce qui reste dans le tamis. Ce qui reste dans le tamis, lorsqu'on passe l'histoire au crible, ce qui reste dans le tamis, c'est la superficie sociale, et je dirais que c'est le crime. Et tout ce qui passe de l'autre côté, et avec tout ce qui se passe de l'autre côté, passe la chance. La chance est de l'autre côté. Et elle est toujours présente, quelle que soit la monstruosité dans laquelle on se trouve. C'est ce qui me paraît témoigner le mieux du fait que l'homme a une destinée qui lui demande de se dépasser lui-même. Et je pense que les grands artistes qu'on admire, je viens citer Hölderlin, on pourrait citer Rimbaud, on pourrait citer en effet Cézanne, le propre de ces artistes, c'est d'être des hommes qui dépassent en eux-mêmes l'homme. Mmh. Et qui, en effet, à partir de là, parient pour un destin qui n'est pas limité aux aléas et au fond à la vocation criminelle de l'humanité.
Ce livre, Le savoir-vivre, c'est un pari, lui aussi. Un pari pour le savoir-vivre et l'art d'aimer contre... la maladie à laquelle vous avez été si durement confronté, l'isolement, l'exil, le désœuvrement.
Oui, mais aussi contre la société dans laquelle elle est. Je pense de plus en plus, en effet, que notre société, et même notre culture, est hantée par une très méchante maladie, très évidente et très très méchante maladie, et que c'est par rapport à cela qu'il faut en penser autant que possible l'origine et en penser la chance. Je suis d'un naturel, je crois, en fait, très optimiste. Fondamentalement optimiste, en tout cas, mais absolument pas aveugle en aucun point. Donc je suis convaincu que on apprend à vivre en apprenant à se sauver de la maladie, quelle que soit la maladie, qu'elle soit concrète, physique, corporelle, qu'elle soit culturelle, mentale, politique, que sais-je. Mmh.
Vous disiez, Marcelin Plenet, on pourrait parler de Rimbaud. Ben oui, parlons-en au moins une minute, puisque le livre qui a précédé Le Savoir-Vivre, c'est un livre sur Rimbaud, Rimbaud en son temps, publié dans la même collection L'Infini chez Gallimard. Une lecture qui se veut situation, et situation, c'est un mot que vous aimez bien, car c'est le titre que vous donnez aussi aux journaux, aux feuilletons, on pourrait dire, que vous publiez dans la revue L'Infini. C'est un mot qui peut nous faire penser à Jean-Paul Sartre, mais aussi à Guy Debord.
Oui, en effet. C'est sans doute d'ailleurs plus proche de Debord que de Sartre, dans ce qu'il en est de ses chroniques. C'est en tout cas, pour revenir à ce que je disais à l'instant, c'est en tout cas une façon de considérer ce que l'on vit d'un regard aussi lucide et objectif que possible, et à partir de là, d'en repérer à la fois ce qui tire vers le bas et d'en repérer ce qui promet une autre disposition. En effet, la disposition qui exige un savoir-vivre. Ça a cet avantage de ne pas ignorer, de se mettre en situation autant que possible, de ne rien ignorer du passé, d'être présent à l'instant vécu et d'envisager ce qui peut sortir de ce vécu, ce qui peut en sortir de façon à transformer la situation. Non pas à la laisser en l'état, ni même à la laisser en l'état d'analyse, mais à la transformer de telle façon que, encore une fois, et ça c'est une chose qui me préoccupe depuis plusieurs décennies, et si ce n'est depuis toujours, encore une fois, en pariant pour une destinée humaine qui dépasse la misère humaine. En pariant pour cela. Et si au fond, vous voyez, si au fond on regarde l'ensemble de l'histoire, et vous parliez de Rimbaud, on pourrait considérer Une saison en enfer comme une situation, comme l'envisager comme une mise en situation. Et alors Rimbaud remonte au Moyen-Âge et même bien avant, à la Grèce, etc. Donc je crois que l'on peut considérer l'histoire de l'humanité en effet comme une suite de crimes plus ou moins spectaculaires. Plus l'humanité devient savante, plus elle devient propre à s'enrichir techniquement, plus le crime devient spectaculaire et devient quantitativement plus important. C'est cela. Mais je crois que du début jusqu'à nos jours, on peut considérer que, en effet, l'histoire de notre culture et l'histoire de l'humanité est une suite d'erreurs. À l'intérieur de laquelle existe une positivité qui fait que malgré tout, ce qui essaie d'asservir, ce qui essaie de détruire le destin de l'homme, continue à survivre et à survivre d'une autre façon et à éclairer d'une autre façon ce destin, à éclairer plus clairement et plus logiquement ce destin.
Il y a ce nouvel essai, Marcelin Plenet, Cézanne Marginale, que vous publiez aux éditions Les Mauvais Jours. D'abord, je ne savais pas qu'il y avait de bons jours. Et ensuite, je ne connais pas cet éditeur, donc je pense qu'il n'est peut-être pas inutile d'en donner l'adresse. C'est la boîte postale 11, 13114, puis Loubier. 13114, puis Loubier. Ça doit être du côté d'Aix-en-Provence.
C'est au pied de la montagne Sainte-Victoire.
Donc en situation.
Il est au pied de la montagne Sainte-Victoire. Il est lui-même peintre. Il s'appelle Djemal Ichou. Il est lui-même peintre. Il l'a été de mes auditeurs libres lorsque je faisais mes cours à l'école des Beaux-Arts de Paris. Et il s'est engagé dans l'édition avec un premier livre illustré, des illustrations qui ne sont pas de lui et que je n'aime pas particulièrement, avec la réédition des Chants de Maldoror de Lautréamont, ce qui est quand même passé de Lautréamont à Cézanne, assez sympathique.
Oui, mais enfin, il y a entre Lautréamont et Cézanne, Marcelin Plenet. qui n'est pas un inconnu dans la maison. Alors, Cézanne, c'est un projet que vous avez depuis très longtemps, d'écrire sur Cézanne.
Je pense que j'avais ce projet dès le début des années 70. Et comme j'étais, ça c'est mon côté prétentieux, je suis persuadé que ce que je n'écris pas, personne ne l'écrira pour moi. Donc je ne suis jamais très pressé.
Et dans les années 70, vous étiez occupé peut-être par d'autres sujets plus avant-gardistes.
Plus ou moins, puisque le premier livre que je publie, et qui répond à la citation de Cézanne que vous avez donnée tout à l'heure en ouverture, le premier livre que je publie s'appelle « L'enseignement de la peinture », et s'appuie entièrement sur l'héritage cézannien. Il y a un long texte sur Matisse me démontrant que tout ce que Matisse doit à Cézanne, et ça c'était dès les années 70, Matisse disait, vous savez, Cézanne c'est notre père à tous.
Et vous avez fait entrer Cézanne à l'école des Beaux-Arts de Paris, Marcelin Plenet, en 1987, il y a 20 ans, parce qu'apparemment on ne le connaissait pas dans la maison.
Eh bien, écoutez, lorsque je suis entré à l'école des Beaux-Arts, en effet, en 1987, il n'y avait jamais eu à l'école de cours ni sur Cézanne, ni sur Matisse, ni sur Picasso. Je m'en suis aperçu un peu tardivement, si bien que j'ai passé 10 ans, au fond, à parler de ces trois-là. Pas tout à fait exclusivement, mais presque exclusivement.
Et vous vous demandez comment justifier auprès des élèves, des professeurs, des directeurs de musées, du ministre de la Culture même, la déclaration autographe de Cézanne, l'art est réservé à un nombre extrêmement restreint d'individus. Il écrit dans une lettre du 12 mai 1904 à Émile Bernard. Et cette lettre n'est jamais citée dans aucune des études sur Cézanne.
Elle est très rarement. Vous savez que lors de la dernière grande exposition Cézanne à Paris, qui était au Grand Palais, j'avais été invité dans une émission de radio avec la responsable de cette exposition, Madame Cachin, pour ne pas dissimuler son nom. Cette exposition avait eu un succès considérable. Il y avait entre 200 et 300 mètres de queue chaque jour devant l'exposition. Et j'avais proposé à Françoise Cachin, à l'époque, évidemment c'était pure provocation, je lui avais proposé d'inscrire à l'entrée du musée la phrase de Cézanne. L'art est réservé à un nombre extrêmement restreint d'individus. Il me semblait que ça faisait leçon, ça pouvait dire quelque chose.
Mais un peu désordre.
ça pouvait dire certaines choses sur cette foule qui était là et qui venait chercher quoi. C'est très difficile, parce que vous savez, et c'est valable pour l'exposition d'Aix, une exposition Cézanne, c'est un peu au fond comme ces boissons, vous savez, ça n'est pas de l'alcool, donc ça a la couleur de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, donc ça ressemble à du Cézanne, ça a la couleur de Cézanne, mais c'est de l'eau pétillante. Donc je crois qu'on est de plus en plus dans un monde, et notamment le monde de l'art, où ce qui est montré, ça n'est pas vraiment du faux, mais c'est quelque chose qui est constamment faussé. L'exposition d'Aix, de ce point de vue, avec tout le remue-ménage qu'il y a pu avoir autour et tous les événements faux événements de spectacles qu'on a pu créer étaient tout à fait significatifs de ce point de vue-là. Mais certains conservateurs s'en plaignent. Ils sont transformés en agents de voyage et en hommes d'affaires. Ils traitent des multimédias et il faut rentabiliser le musée. Alors pour rentabiliser le musée, on fait du semblant. On fait du semblant. On fait ce que j'ai vu un jour, c'est-à-dire les produits dérivés. Ce que j'ai vu un jour au musée d'Orsay dans la boutique, c'est-à-dire un torchon à vaisselle qui était vendu sous le nom torchon Paul Cézanne. Et là, je crois encore que ça dit bien ce que ça veut dire sur l'attention que l'on porte aux œuvres des gens qui ont quand même transformé l'histoire de la pensée.
Ce que vous êtes en train de nous décrire, Marcelin Plenet, c'est très précisément la société du spectacle.
C'est tout à fait ça, parce que ça vaut pour Cézanne, ça vaut pour toute chose. Ça vaut même pour toute forme de pensée. Si on regarde 95% des émissions télévisées, quel que soit le sujet, eh bien là encore, ça ressemble à de l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais c'est de l'eau à peine pétillante. En toute bonne foi, les gens qui le font sont sans doute de bonne foi, mais le résultat, c'est que un nombre considérable d'écoutes, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, parce qu'en effet, désormais, nous sommes en situation, du spectaculaire, d'avoir chez soi un appareil qui s'adresse, où chacun s'adresse en même temps, à des dizaines de millions de personnes en même temps. Exactement en même temps. Donc on imagine les faux-semblants et les malentendus que tout ça peut produire, et la misère aussi que cela produit d'une certaine façon. Donc je crois que c'est en effet cela qui... comment dire ? Ce faux semblant, je crois que c'est cela qui est aujourd'hui pour nous le plus criminel. Quel est l'arrière-fond de ce semblant? Eh bien, je crois que c'est désormais tout à fait arrivé en Europe et à mon avis un peu partout dans le monde. C'est un populisme à l'américaine. C'est-à-dire, en effet, c'est un populisme de grosse vulgarisation où tout n'a vraiment aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est le rendement. Et l'homme devient désormais uniquement intéressant dans ses capacités de rendement. L'art devient intéressant dans ses capacités de rendement. Un musée fait une exposition, on est sûr que ce musée pourra faire d'autres expositions s'il rentabilise son exposition. Donc on est dans des capacités de rendement. L'homme n'est plus seulement une matière première, il est une matière première qui doit produire du rendement. Et il n'est rien d'autre, il n'a d'autre destin que ce destin désormais de matière première. Sauf bien entendu à réfléchir sur son propre destin et à ce moment-là à voir ce qu'il en est.
Pas d'exception culturelle, alors?
Il y a une exception culturelle. Elle est ce que Cézanne en dit. C'est-à-dire, il faut savoir que l'exception culturelle est réservée à un nombre extrêmement restreint, d'individus. Et à une vue et à une vision de la société qui permettent l'accès à cette... à cette restriction sans limite qu'est l'œuvre d'art. Il y a une très jolie phrase que moi je trouve absolument admirable d'un philosophe bien connu qui s'appelle Wittgenstein, qui est extrêmement célèbre. La phrase est la suivante. La mort n'est pas un événement de la vie. On ne vit pas la mort. Si l'on entend par éternité, non pas la durée, mais l'intemporalité, alors il a la vie éternelle, celui qui vit dans l'instant. Notre vie n'a pas de fin, comme notre champ de vision n'a pas de limite. Je crois qu'on a là une excellente introduction à l'œuvre de Cézanne. Notre vie n'a pas de fin, comme notre champ de vision n'a pas de limite. Il est évident que ce que les œuvres d'art ont de plus grand, de plus admirable et de plus difficile d'accès, c'est cette pensée. La vie de celui qui a fait cette œuvre n'a pas de fin, comme son champ de vision n'avait pas de limite.
Donc pour voir Cézanne, Marcela Plenet, il faut commencer par lire Wittgenstein, ensuite peut-être passer par Guy Debord.
Non.
Et éventuellement par Nietzsche.
Non, il faut être vigilant, il suffit simplement d'être vigilant à la façon dont on vit l'instant. Parce qu'au fond... une œuvre d'art, et surtout un tableau, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose à quoi on est plus ou moins présent. Si lorsque je regarde les Grandes Baigneuses ou la Montagne Sainte-Victoire, je pense à ma déclaration d'impôt, ou je pense au fait que mon salaire n'est pas ce qu'il devrait être, ou je suis en train de compter mon linge, je ne suis pas présent à l'œuvre que je regarde. Et en conséquence, je ne suis pas présent à l'instant privilégié que j'ai de pouvoir regarder cette œuvre dans sa présence. Parce que les œuvres, les peintures notamment, ont cette particularité que quand elles sont devant nous, elles sont présentes. Ce ne sont pas des choses du passé, c'est un objet présent que l'on a devant nous. Il suffit d'être vigilant à sa présence, à l'œuvre d'art, pour penser ce que les plus grands philosophes ont pensé. On peut ensuite aller les regarder, on peut ensuite aller regarder Vitechal, aller regarder Debord, ça est clair. Ça a surtout, comment dire, cet avantage de retarder ce qu'on appelle dans d'autres circonstances l'éjaculation précoce. C'est-à-dire, je suis devant l'œuvre, j'en jouis, et puis je pense à autre chose. Ça a un avantage de savoir, en effet, entretenir un rapport de sensualité avec l'œuvre plus développé et plus fine.
Alors donc, il n'est pas nécessaire de lire Debord ou Nietzsche, mais est-ce qu'on peut lire Émile Zola et l'œuvre, par exemple ?
Eh bien, je crois, si vous voulez, que ça, je crois que c'est une particularité. Je crois que c'est une particularité de la seconde moitié du XIXe siècle. En effet, de se trouver face à la construction, d'abord industrielle, d'une société, et face à la pensée de cette construction industrielle, c'est-à-dire de l'invention de la science, de la croyance au progrès, de la croyance en la technique, etc., et à l'industrialisation. Et cette pensée-là, c'est une pensée positiviste. C'est une pensée positiviste pour laquelle, comme d'ailleurs l'invention des techniques, l'homme devient une matière première qui doit tout simplement rentabiliser l'industrialisation, sa présence tout simplement sur la Terre, et qui n'existe pas en dehors de cette rentabilisation-là. Face à cela, eh bien, il y a, nous en parlons depuis un bon moment, il y a un certain nombre, en effet, un certain nombre d'artistes qui résistent à ce positivisme, dont il faut bien voir qu'il est quand même une des clés des inventions scientifiques, une des clés des inventions de la technique, et que les grands massacres du XXe siècle n'auraient pas existé sans ce positivisme et sans ce développement de la technique et de la science. Il a fallu la technique et la science pour qu'on détruise une quantité d'hommes en même temps, au même moment et en même temps. Donc on voit bien que les catastrophes que l'on connaît naissent avec cette pensée du progrès, de la technique et de la science. Cette pensée spéculative du progrès, de la technique et de la science à laquelle on peut résister. En essayant de comprendre ce qu'il y a de positif là-dedans et ce qu'il y a d'aliénant. Eh bien, je crois qu'un certain nombre d'artistes, en effet, ont réfléchi à ça. En France, notamment, en ce qui concerne les artistes. Bien entendu, Cézanne et incontestablement Rimbaud. C'est-à-dire, si vous voulez, sur le flanc poétique. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est au fond que le destin de l'homme, si ça n'est pas un destin de rentabilisation? Eh bien, c'est tout simplement un destin poétique. Eh bien, un certain nombre d'artistes ont pensé à cela. Et d'autres, écrivains ou artistes, se sont trouvés engagés à la suite de choix personnels, psychologiques, tout ce qu'on veut, se sont trouvés engagés dans cette croyance au progrès et dans cette croyance en la technique et la science. Et bien entendu, toute l'œuvre de Zola est une œuvre construite sur cette croyance-là, notamment à partir tout simplement de l'héritage génétique, n'est-ce pas ? Tous les Rougon-Macquart sont construits entièrement à partir d'une vision scientifique sur les conséquences de l'héritage génétique. Voilà. Donc, par hasard, ces deux hommes, dont l'un, en effet, parie avec une force tout à fait exceptionnelle pour le destin poétique de l'homme, et l'autre pour le progrès, ces deux hommes se sont rencontrés tout jeunes, ont vécu scolairement ensemble, ont vécu leurs vacances ensemble et ont pris chacun leur chemin. L'un vers le naturalisme, d'une certaine façon, et l'autre vers le poétique. Ce qui fait que, sans que ce soit explicitement déclaré, ils sont d'une certaine façon devenus non seulement rivaux, mais ennemis. Et c'est un des problèmes du positivisme de l'époque et de l'œuvre de Zola et du croyance au progrès. C'est évidemment celui qui croira au progrès, qui va croire à la rationalité et qui va croire à la science, qui va être le plus exclusif et qui va même l'être jusqu'au désir de meurtre. Parce que si vous venez de citer l'œuvre, j'ai pris un long détour, mais vous venez de citer l'œuvre, l'artiste que Zola connaissait le mieux, c'était Cézanne. Et bien évidemment que le héros de l'œuvre, qui s'appelle Lantier, et Dieu sait si le caractère de Cézanne était entier, le héros de l'œuvre, c'est évidemment Cézanne, qui est présenté comme un illuminé, un malade, et dont, Zola dit, on finira un jour par le trouver pendu derrière un de ses tableaux. Mais lorsqu'un écrivain, qui en principe c'est un peu ce qu'il fait et un peu ce qu'il écrit, écrit quelque chose comme ça, il est bien évident qu'il a un réel désir de meurtre. D'ailleurs, l'œuvre se termine par l'enterrement de Lantier, en effet, et par un long palabre d'un autre personnage qui représente Zola, et où on décrit que cet illuminisme ne mènera à rien, que cette œuvre est un échec, que cet homme était tout à fait incapable de quoi que ce soit, et excite Cézanne.
J'aimerais bien, Marcelin Plenet, qu'on revienne sur le titre que vous avez donné à ce livre, Cézanne marginale, qui paraît aux éditions Les Mauvais Jours. Marginale est composé en italique.
Oui, en effet, parce que marginal ici s'entend par rapport à la société qui accueille Cézanne. Il est bien évident qu'aujourd'hui, dans le monde de l'art, où le kitsch est tout à fait régnant, où un grand collectionneur français expose des œuvres kitsch sur le Grand Canal à Venise, il est bien évident que l'œuvre de Marginal, l'œuvre de Cézanne dans ces conditions, ne peut être que marginale. La réalité est marginale, alors qu'elle est le centre est désormais marginal, si vous voulez, et le tout le reste est occupé par de l'anecdote et du spectacle assez misérable, il faut bien le dire.
Vous avez donné un sous-titre à votre essai, Cézanne, sa vie et son enseignement, et l'enseignement, c'est vrai, ouvre et ferme votre livre. Vous y attachez la plus grande importance. Vous avez rappelé tout à l'heure le titre de votre premier livre, L'enseignement de la peinture. Ici, c'est à la fois la nature et l'enseignement.
Oui, il faut, parce que voilà, là encore, on est dans un espace où les malentendus sont si nombreux que lorsqu'on parle de nature à propos d'un peintre, eh bien, on le verse systématiquement au compte du naturalisme. Si vous prenez la plupart des essais sur l'impressionnisme, vous verrez que la plupart des impressionnistes, dont certains sont naturalistes d'ailleurs, la plupart des impressionnistes sont versés au compte du naturalisme. Un des grands essais sur Monet, qui est un autre très très grand peintre, qui est de Clemenceau, est un essai tout à fait positiviste sur la science, et où en effet Monet est versé au compte du naturalisme. La nature, selon Cézanne, c'est tout autre chose.
Il l'a trouvé au Louvre aussi bien.
Et il la trouve au Louvre aussi bien. Il dit aller à la nature par le Louvre et au Louvre par la nature. Alors qu'est-ce que l'on a comme nature à ce moment-là, à partir du moment où on inclut le Louvre? Eh bien, pour Cézanne, on a toute l'histoire de son, comment dire, de toute l'histoire de son œuvre, mais toute l'histoire du langage propre à son œuvre. On a toute l'histoire de la peinture. L'enseignement, c'est évidemment à ce moment-là non plus quelque chose d'intellectuel, mais comment dire, un enseignement rétinien. La fréquentation de Cézanne du Louvre par Cézanne était considérable. Il y est passé un nombre de mois et un nombre d'années, un très très grand nombre de mois et un très très grand nombre d'années. Donc la fréquentation du Louvre est considérable et elle a cet énorme avantage. Et pour le Louvre, c'est tout à fait évident et c'est très clair. Si on traverse le Louvre, eh bien on a chacun des grands moments de l'histoire de notre culture tour à tour présent à nous-mêmes. On se trouve tour à tour présent à un des grands moments de l'histoire de notre culture. Et c'est-à-dire, on se trouve à tout moment en train d'assumer les grands moments de cette histoire et de se constituer, pour un artiste comme Cézanne, un œil susceptible de répondre de cet ensemble monumental de son histoire.
Cet essai Cézanne marginal est le premier volet d'un diptyque. Vous annoncez par Solin Plenet un autre livre qui s'intitulera « La pensée peinte de Cézanne ».
Le second volume, ce premier essai traite essentiellement du milieu, de la famille et des premières années en quelque sorte, c'est-à-dire des fréquentations du Louvre, de la façon dont Cézanne s'enseigne à lui-même son génie et sa liberté. La seconde partie sera consacrée à une trentaine de tableaux, à l'intérieur desquels je m'emploierai à faire apparaître la charge historique et la transformation active et dynamique de cette charge historique à l'intérieur d'une œuvre.
La bonne idée, ça serait peut-être de rassembler les deux volumes.
En principe, il devrait l'être dans un an ou deux, je pense aux éditions Gallimard.
Cézanne marginal, le livre de Marcelin Plenet, est publié aux éditions Les Mauvais Jours, dont je rappelle l'adresse, boîte postale 11 13114 Puy-Loubier. Du jour au lendemain, Angélique Thibault, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir. Thank you.